Vous écoutez les programmes du studio Kalangou. Messieurs, mesdames, bonsoir et merci pour la fidélité. Le journal de ce 13 octobre avec Hawa Momman. Le programme alimentaire mondial honoré par le prix Nobel 2020, c'est en reconnaissance de ses actions contre la faim dans le monde. Plus de 1800 migrants africains sont arrivés à Agadez le dimanche dernier. Ils ont été refoulés d'Algérie. Pour les mères qui manquent de temps pour la pratique de l'allaitement maternel exclusif, le lait peut être prélevé et conservé pour nourrir le bébé. Il suffit juste de respecter quelques règles d'hygiène. Ce sera un petit magazine de ce journal. Le prix Nobel 2020 a été attribué au Programme alimentaire mondial. Cette institution des Nations Unies travaille au Niger depuis 1968. Le PAM travaille avec des populations rurales qu'il appuie notamment en achetant leurs produits pour aider les plus démunis. Le directeur pays du PAM, Sori Wan, explique au micro d'Olivier Assogbavi.
Les paysans travaillent dans des conditions difficiles et ce qui les affecte le plus souvent, ça, c'est les terres agricoles qui sont dégradées. Donc le PAM a beaucoup investi dans la récupération des terres agricoles comme moyen d'accompagnement des paysans. Depuis 2018, nous avons contribué à récupérer 55 000 hectares de terres dégradées et on les accompagne avec d'autres acteurs pour relancer la production agricole. Et une fois que la production agricole est lancée, on leur offre un marché de qualité. C'est-à-dire, au lieu de trouver des marchés pour vendre leurs produits, on achète directement à des prix qui sont très très intéressants et qui les motivent. Parce que le PAM, au lieu d'importer les vivres, les achète localement.
À Dogondouchi, région de Dosso, le district sanitaire a enregistré 2% de malnutrition modérée et moins de 1% pour la malnutrition sévère. La situation n'est pas alarmante selon le médecin-chef du district sanitaire de ce département qui souligne une particularité au niveau des enfants de 0 à 11 mois. Des précisions avec Dr Soumana Haruna, il est au micro d'Abdulaziz Danyuma.
La campagne CPS, donc c'est une campagne qui est couplée aussi du dépistage de la malnutrition. Donc ça nous a quand même permis d'avoir une idée et données par rapport au nombre d'enfants qui sont malnutris. En tout cas, les résultats de ces passages nous ont montré que la malnutrition surtout modérée donc tourne autour de 2% et la malnutrition sévère tourne autour de 0,64%. Donc elle n'est pas tellement alarmante. Et la seule particularité que nous observons parmi ces cas de malnutrition, il y a surtout les enfants de 6-11 mois et là ça s'expliquerait surtout du fait de la saison hivernale. Et les 6-11 mois, c'est les enfants qui sont alimentés au sein. Le plus souvent, l'enfant est délaissé parfois par la mère qui va aux travaux champêtres.
Au total, 1857 migrants africains refoulés d'Algérie sont arrivés ce dimanche 11 octobre à Agadez. La vague est composée de 1844 Nigériens, dont 1686 hommes, 266 enfants et 171 femmes et 13 autres de nationalité étrangère. Notre correspondant Moussa Maman était sur le site de leur hébergement situé à la sortie de la ville d'Agadez sur la route de Tawa. Voici son reportage.
Arrivés à bord d'une vingtaine de camions, ces refoulés d'Algérie, dont les deux tiers sont des ressortissants de la région des Indes, se sont plaints de leurs conditions de voyage. Écoutons leurs avis.
Même pour manger sur la route, même, c'est un problème. Tu es dans le bus, tu veux descendre pour pisser, ils refusent. Franchement, c'était pas facile, c'était tellement difficile.
On a été pris. J'ai deux enfants ici avec moi. Mais leurs parents n'ont pas été pris. Il n'y a ni à manger, ni à boire.
On a fait 6 jours à Assamaka, sous soleil et assoiffé. Je vous jure, au nom de Dieu, à mon arrivée, je fais 5 jours malade.
Le comité régional de prévention et gestion des catastrophes et crises alimentaires a pris en charge ces refoulés avant de les acheminer vers leurs régions respectives. Idi Chebou, président du comité.
Nous avons déjà quelques membres du comité qui sont sur le site pour accueillir les premiers camions. On sécurise le site avec la contribution de FDS. La restauration est fournie, le service eau est fourni, un service eau pour l'alimentation. Maintenant, pour les autres besoins, toilettes et lavage, un dispositif de lavage également est mis en place.
Une équipe de la Direction régionale de la santé publique était sur le site pour le dépistage de COVID-19. Les personnes testées positives seront mises en confinement avant leur acheminement.
Rentrée scolaire à Bankilare, un des départements nigériens concernés par l'insécurité dans la bande des trois frontières avec le Mali et le Burkina Faso. Selon l'inspecteur Hassan Garba, les mesures prises par les autorités nigériennes rassurent les populations et les enseignants pour la rentrée scolaire 2020-2021 prévue pour le 15 octobre prochain. Écoutons-le au micro de Youssouf Iliewat.
L'état d'urgence sécuritaire sévit dans tout le département de Bankilare. Ça veut dire que c'est l'ensemble des localités du département qui sont concernées par cette insécurité-là. Cet état de fait a d'ailleurs entraîné la fermeture d'un certain nombre d'écoles l'année passée, qui ont un nombre non négligeable d'élèves. Mais ailleurs, indépendamment de ces quelques écoles-là, les activités d'enseignement-apprentissage se sont poursuivies jusqu'à la fin de l'année scolaire. Donc, les mesures prises par les autorités rassurent les populations, les enseignants aussi. Et cela permet vraiment aux acteurs de poursuivre leurs activités normalement. Ce que les enseignants doivent faire, c'est la prudence et ils sont informés, ils sont sensibilisés sur ces questions-là. Donc s'il y a une information à donner, ils savent qui alerter.
À travers les élections et la séparation des pouvoirs, l'un des objectifs de la démocratie est d'assurer la protection des peuples et l'égalité entre les membres d'une communauté. Mais au regard de l'actualité sous-régionale, comment l'insécurité met-elle en cause l'efficience de la démocratie au Sahel? Abdramane Idrissa, enseignant-chercheur à l'Université de Leiden en Hollande et chercheur au laboratoire d'études et de recherche sur les dynamiques sociales et le développement local, répond au micro d'Olivier Assogbavi.
Dans les zones déjà où il y a des conflits, c'est très difficile de parler de démocratie puisqu'on ne peut pas organiser un processus électoral là-bas. Les élus locaux sont en danger. Et en par-dessus tout cela, nous avons cette histoire d'état d'urgence qui est aussi quand même un problème pour la démocratie puisque le pouvoir est concentré maintenant au niveau pratiquement de la défense nationale. Et dans un tel contexte, les droits citoyens sont aisément bafoués. Mais ça, c'est vrai pour les régions qui sont frappées par les conflits. Mais c'est aussi vrai en réalité pour l'ensemble du pays, même les régions où il n'y a pas de conflit, puisque les décisions qui sont prises de cette façon-là et qui mettent en péril la démocratie, elles vont avoir un impact ailleurs.
Les partis membres de l'opposition politique ivoirienne ont organisé le samedi 10 octobre passé un rassemblement au stade Félix Houphouët-Boigny à Abidjan. Pour la grande majorité des manifestants, il s'agissait de réclamer le report des élections présidentielles, déclare l'analyste politique ivoirien Sylvain Guessant, joint au téléphone par Mokhtar Amadou.
L'opposition a tenté de faire entendre sa voix aussi bien à l'opinion nationale qu'internationale. Je pense que pour l'opposition, il s'agit un peu de mettre la pression sur le parti au pouvoir en espérant un report des élections. C'est vrai que les avis semblaient quelque peu divergents, certains appelaient à une transition, d'autres demandant simplement le report d'élections. Mais pour la grande majorité, il s'agissait de reporter l'élection présidentielle en espérant avoir une élection un peu plus inclusive, notamment par la candidature de M. Soro Guillaume, de M. Laurent Gbagbo, de sorte à nous éviter une crise post-électorale. Dans les différentes interventions, les leaders de l'opposition ont appelé leurs sympathisants à attendre le mot d'ordre à venir. Bon, on imagine après la désobéissance civile qui n'a pas été un succès en Côte d'Ivoire, c'est-à-dire que ça sera de durcir un peu plus leur position en espérant que le parti au pouvoir va appeler à un dialogue politique de sorte à susciter un compromis politique.
Après sa première victoire contre le Tchad dans le tournoi international amical qu'il organise depuis samedi, le Niger se prépare à une double confrontation cet après-midi avec l'équipe nationale A qui jouera contre la Sierra Leone et l'équipe B qui affrontera le Tchad. Selon le secrétaire général de la Fédération nationale de football, ce tournoi est une occasion pour le nouveau sélectionneur et son équipe de mieux préparer les compétitions internationales à venir. Slimane Mohamed est joint au téléphone par Moussa Hassan.
On a très mal démarré nos éliminatoires de la CAN avec deux défaites à Abidjan et surtout ici à domicile, la cinglante défaite contre Madagascar. Il fallait donc reprendre la dynamique de la victoire. Entre-temps, vous savez, il y a eu le corona aussi qui est passé par là avec la suspension de toutes les activités. Donc vraiment, c'est une victoire qui est bien tombée, surtout qui coïncide avec l'arrivée du nouveau sélectionneur national, M. Jean-Michel Cavalli, et son adjoint Taoufik Arzi. C'était une occasion pour eux de découvrir le groupe directement, j'allais dire. On espère enchaîner cet après-midi, même ce mardi, contre la Sierra Leone avec l'équipe A, pour mieux entrevoir les éliminatoires de la CAN qui vont reprendre en novembre prochain avec la double confrontation contre l'Éthiopie. Faut pas oublier également qu'ils auront un œil sur l'équipe A Print, c'est-à-dire l'équipe CHAN, qui va jouer le CHAN au Cameroun en début d'année prochaine, et aussi juste après-midi contre l'équipe du Tchad. Donc vraiment, c'est une période d'intense activité afin de mieux entrevoir l'avenir.
Hey Issa, cette histoire de Covid-19 me rend malade. J'ai peur, je me sens mal tout le temps et sans te mentir, j'ai peur de tout le monde. Je ne fais que lire les infos sur cette maladie sur les réseaux sociaux.
C'est normal d'avoir peur. Depuis le début de cette pandémie, je t'ai souvent répété de faire attention à tout ce que tu lis sur les réseaux sociaux. Ce sont des fausses informations pour la plupart.
Mais que dois-je faire? Où aller alors pour me tenir informé?
Informe-toi sur le site officiel de l'Organisation Mondiale pour la Santé et les plateformes d'information des autorités de santé du Niger. La connaissance des faits peut t'aider à réduire la peur.
Cette fois-ci, je tâcherai de suivre tes conseils. Je me rends compte qu'il y a tellement d'informations et de fausses rumeurs qu'il faudrait qu'on lutte contre la désinformation. En effet, à cause de la peur, je dors moins et je suis tout le temps fatiguée.
Une dernière chose. Pense à tout ce que tu as vécu de positif dans la journée. Et prends la vie du bon côté. Focalise toute ton énergie à sensibiliser les gens sur les mesures préventives à respecter. Rappelle aux gens que la maladie existe toujours et que l'assouplissement de certaines mesures prises par l'État ne doit pas rimer avec le lâchement des gestes barrières.
D'accord, merci Issa.
Ceci est un message du studio Kalangou en collaboration avec le ministère de la Santé publique du Niger.
Nous arrivons à la partie magazine de ce journal. Pour bien de raisons, beaucoup de mères fonctionnaires ou travailleuses pensent que l'allaitement exclusif est difficile à pratiquer. Selon la directrice de la nutrition, il n'en est rien. Le lait maternel peut être prélevé et conservé pendant un certain temps pour nourrir le bébé même en l'absence de sa maman. Cependant, les règles d'hygiène s'imposent, explique Madame Diallo Hamsatou Diakité, directrice de la nutrition. Elle est jointe au téléphone par Rahila Toussoumana.
Est-ce qu'il est possible d'exprimer le lait maternel si on doit s'absenter quelque temps?
Les gens pensent que l'allaitement maternel est difficile chez les mères fonctionnaires ou les mères travailleuses. En fait, il n'y a rien de plus simple que ça. Elles peuvent bel et bien exprimer le lait maternel et le déposer pas au frigidaire à température ambiante pendant au moins 6 heures de temps. C'est-à-dire que si je dois aller travailler, j'exprime mon lait maternel, je le dépose sur une table, dans un bol, et je mets un torchon, je ferme le bol pour le protéger des mouches. Et quand l'enfant a faim, on prend, on le donne. Et ce lait-là peut tenir jusqu'à 6 heures de temps. Ça veut dire que si je quitte chez moi à 8 heures, si je reviens à 16 heures, le lait-là est encore en bon état pour alimenter mon bébé. Donc on peut bel et bien exprimer le lait maternel, le déposer à température ambiante. Et si le donner à l'enfant, celle qui le met au frigidaire, il y a un peu de risque. Parce que quand l'enfant pleure tout de suite, il faut prendre le lait qui est frais et le donner à l'enfant. Ça peut l'enrhumer, ça peut lui donner des problèmes respiratoires, vu qu'à cet âge, l'enfant est très fragile. On a vu même des femmes qui ont voyagé, qui sont parties en pèlerinage alors qu'elles ont un bébé. Elles ont déposé le lait maternel, elles l'ont congelé. Et au fur et à mesure, on décongèle et on donne à l'enfant.
Combien de temps peut tenir le lait maternel au congélateur?
Au congélateur, ça dépend. Dans les pays développés, le lait maternel peut tenir jusqu'à 3 mois. Parce que là-bas, c'est vraiment un congélateur spécialement dédié pour la conservation du lait maternel. Mais ici, chez nous, on peut congeler le lait maternel jusqu'à 1 mois au congélateur.
Comment conserver le lait maternel au congélateur?
Il doit être congelé dans des bols différents. C'est-à-dire que si je sais que je dois voyager dans 1 mois et j'ai un bébé à qui je fais l'allaitement maternel exclusif, aujourd'hui j'exprime mon lait maternel, je le mets dans un bol, je ferme, je mets au congélateur. Demain, si je dois exprimer, je prends un nouveau bol et puis je mets. Donc, chaque jour son bol parce que la durée de la conservation n'est pas la même.
Et c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi.